RFI 21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Tout le monde aime cette idée, dit ce mercredi Donald Trump, le président américain qui veut s'emparer de la bande de Gaza pour faire le ménage et transférer les habitants vers des pays plus sûrs. Des propos que ses soutiens encouragent aux États-Unis, mais qui suscitent l'indignation des démocrates et de la communauté internationale. L'Italie justifie la libération d'un responsable libyen en accablant la CPI. L'homme à la tête de la police judiciaire libyenne est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Arrêté en Italie, il a été relâché car le mandat d'arrêt de la CPI aurait été truffé d'erreurs, selon les autorités italiennes. La chute des exportations de cognac vers la Chine, conséquence des mesures de rétorsion prises par Pékin face à la hausse des taxes européennes sur les véhicules électriques chinois. Un projet révoltant et illégal selon Amnesty International. Les propos de Donald Trump provoquent un tollé et les condamnations de la communauté internationale. Le chef de la délégation palestinienne aux Nations Unies, Riyad Mansour, s'insurge. Les Gazaouis devraient être autorisés à se réinstaller dans leur maison d'origine au lieu d'être déplacés vers d'autres pays comme le suggère le président américain. La nuit dernière, Donald Trump a donc dit vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza. Assimilant l'enclave palestinienne à un chantier de démolition dont il faudrait faire partir tous les habitants pour se débarrasser des bâtiments détruits et en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Selon le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, l'offre de Trump sur Gaza est généreuse et non pas hostile. Aux États-Unis, David Thompson, le président, a ses soutiens.
Tout le monde aime cette idée, s'enthousiasme Donald Trump face aux journalistes au lendemain de son annonce de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Ses soutiens applaudissent en effet l'initiative. J'attends de connaître les détails du projet, dit le speaker de la chambre Mike Johnson, mais c'est une décision audacieuse, il faut faire quelque chose pour éradiquer la menace contre Israël. Imaginez tout ce qu'on aurait pu faire si tout l'argent qui a été mis dans les tunnels et les munitions avait été mis dans l'innovation à Gaza, explique de son côté le gendre du président, Jared Kushner, qui serait à l'origine de ce projet. Le mieux, dit Kushner, est effectivement de faire sortir les gens de Gaza pour tout nettoyer. Dans les médias d'opposition, en revanche, c'est encore la sidération. Sur CNN, un éditorialiste se dit choqué que Trump puisse envisager Gaza comme une opération immobilière. Il a parlé d'une position de propriété des États-Unis sur Gaza, dit cet éditorialiste. Il serait plus juste de parler de colonialisme du 21e siècle. Dans le même temps, à la Chambre des représentants, les démocrates fulminent. Al Green, un élu du Texas, accuse même Donald Trump de complicité de nettoyage ethnique. Il demande le lancement d'une procédure d'impeachment contre le 47e président des États-Unis, qui n'a évidemment aucune chance d'aboutir. David Thompson, Miami RFI.
Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite rejette toute tentative de déloger les Palestiniens de leur patrie et indique qu'il n'y aura pas de normalisation des relations avec Israël en l'absence d'un État palestinien, contrairement à ce qu'avait indiqué hier Donald Trump. La bande de Gaza est une partie intégrante d'un futur État palestinien. Voilà ce que dit ce soir l'Union européenne. Les 27 restent engagés en faveur d'une solution à deux États qui est la seule voie vers une paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens. Pour Arnaud Le Gall, député de gauche de la France insoumise, il faut prendre au sérieux les propos de Donald Trump et la France doit hausser le ton.
Trump confirme ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'il n'a jamais cru en un État palestinien. Et donc, il va au bout de la logique du gouvernement suprématiste de Netanyahou, qui est celui du nettoyage ethnique de Gaza, dans le mépris le plus total. Alors Netanyahou a fait semblant d'être un peu, de se démarquer légèrement parce qu'il ne peut pas ouvertement cautionner, mais la vérité c'est qu'il est d'accord avec cela. Il est grand temps que la diplomatie française se bouge pour défendre le droit international. On voit bien que par ailleurs les Chinois ont déclaré immédiatement leur opposition. Ils ont rappelé qu'ils étaient pour une solution à deux États. On aimerait bien que la France fasse de même et avec le ton qui convient.
Des propos recueillis par Victorien Villaume. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui qualifié Donald Trump de meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. En Europe, la Russie et l'Ukraine ont échangé 150 prisonniers de guerre dans chaque camp. Le ministère russe de la Défense, qui l'a annoncé, a indiqué que les Russes se trouvent actuellement en Biélorussie pour recevoir une assistance psychologique et médicale. Sur Telegram, le président ukrainien a également réagi. C'est un beau jour pour nous tous car nous ramenons 150 de nos défenseurs de la captivité russe. Fin de citation. Il était à la tête de la police judiciaire libyenne recherchée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Arrêté en Italie en janvier, Osama al-Masri Najim a été incarcéré en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale avant d'être remis en liberté et ramené en Libye 2 jours plus tard. La première ministre italienne Giorgia Meloni et les ministres de la Justice et de l'Intérieur sont visés par une plainte. Un tribunal spécial a été saisi. Le gouvernement italien, lui, invoque des erreurs de la CPI et des raisons de sécurité pour avoir très rapidement rapatrié le criminel libyen. À Rome, Anne Lenir.
Loin d'admettre une erreur personnelle ou un choix politique, le ministre de la Justice, Carlo Nordio, a surtout accablé la CPI pour avoir transmis, je cite, un dossier truffé d'erreurs et de plus rédigé en anglais. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, après avoir affirmé qu'Osama al-Masri Najim n'a jamais été un interlocuteur de Rome pour la lutte contre l'immigration clandestine, a expliqué son rapatriement le 21 janvier en ces termes.
L'expulsion d'Al-Masri s'insère dans un cadre dont l'objectif est d'éviter tout problème à notre pays, ses intérêts à l'étranger et à nos citoyens.
Autant de déclarations qui ont provoqué l'indignation des partis d'opposition. Écoutons la chef du Parti démocrate, Elie Schlein.
Pourquoi le ministre Nordio, qui était informé au moins depuis le jour de l'arrestation, n'a pas répondu aux sollicitations du parquet général? Et pourquoi, suite à la réception du dossier de la CPI, un Falcon 900 attendait le tortionnaire à l'aéroport de Turin pour le ramener chez lui?
En conclusion, les députés et sénateurs de centre-gauche ont demandé à nouveau l'intervention de Giorgia Meloni devant le Parlement. Anne Lenir, Rome, RFI.
En France, la filière du cognac a la gueule de bois. Les exportations vers la Chine ont chuté de près d'un quart en valeur en 2024 par rapport à 2023. En cause, les mesures anti-dumping imposées par Pékin en représailles aux taxes européennes sur les véhicules électriques chinois. Altine Lazage.
La Chine compte beaucoup pour la filière du cognac, très dépendante des exportations. 98% de la production est vendue à l'étranger. Le président de l'interprofession du cognac, Florian Morillon, en appelle au gouvernement pour régler la question des taxes.
Notre premier marché donc en volume, ce sont les États-Unis, ensuite c'est la Chine. Et c'est notre premier marché en valeur, donc il y a urgence. Donc voilà, moi j'en appelle de nouveau à notre Premier ministre qu'il se déplace rapidement en Chine et comme ça avait été convenu et annoncé par le président de la République, parce que même en s'y déplaçant, ça ne garantit pas le résultat. Mais s'il ne s'y déplace pas, le résultat, on le connaît par contre.
Et il ne reste pas de marché inexploré à exploiter, souligne Anthony Brun, président de l'Union des viticulteurs de l'appellation cognac.
Aujourd'hui, le cognac est exporté à travers le monde dans 150 pays depuis près de 300 ans. Les marchés où le cognac n'est pas présent ou pas beaucoup, c'est parce qu'il y a énormément de contraintes douanières qui font que nos prix n'y sont pas compétitifs. Et bien sûr, qu'on peut espérer développer nos ventes sur ces marchés-là, mais c'est pas des marchés qui peuvent se développer du jour au lendemain.
Du jour au lendemain, le président Trump peut aussi imposer des taxes, ce qui serait une catastrophe pour la filière qui compte environ 70 000 emplois directs et indirects en France.
Altine Lazage du service économie de RFI. La motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou a été rejetée. Aujourd'hui, elle n'avait aucune chance d'aboutir sans le soutien des députés socialistes. Le budget de l'État pour 2025 est donc adopté, tout comme la partie dépenses du budget de la sécurité sociale. Et le Premier ministre a dégainé de nouveau l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote, cette fois, la partie recettes du budget de la sécurité sociale. Netflix prend ses distances avec Carla Sofia Gascón, la star du film Emilia Pérez, après des tweets polémiques. L'actrice transgenre joue le rôle d'un trafiquant de drogue mexicain qui veut changer de sexe et de vie. Le géant du streaming avait largement diffusé les images de la promotion de l'actrice ouvertement transgenre et nommée aux Oscars avant, finalement, de faire marche arrière.